Bonjour Camille Crenier et toute l'équipe de La Terre au Carré. Je vous écoute tous les jours. Je suis Françoise et j'habite Cavalaire-sur-Mer dans le Var, petite station balnéaire. Journal Var Matin de ce matin. Dernière page, urbanisme. Une nouvelle marina pharaonique à Vintimille. Et si vous voyez les photos du projet, c'est quelque chose de terrible. Ils vont relier d'une certaine manière le port de Vintimille au port de Monaco. Il y a un mec qui va mettre 200 millions d'euros là-dedans. Il s'appelle Robert Thielen. Je suppose qu'il est pour la sauvegarde de la Méditerranée. Cela dit, l'hôtel, comme l'école spéciale et tout, tout ça, c'est pas pour les gens du coin. C'est juste uniquement pour tous les touristes étrangers. J'aurai bientôt 80 ans. J'espère que la Méditerranée, ce sera un beau jour d'être pollué. Je vous embrasse tous les deux. Au revoir.
Bonjour, c'est Jean-Pierre de Saint-Rémy-les-Chevreux dans les Yvelines. Avec notre association Parle en Action, nous organisons régulièrement des ciné-débats dans notre commune. Notre prochain sujet sera la pollution lumineuse avec la projection du film « Où sont passées les Lucioles » de Corentin Quimino. Ce sera suivi d'un débat avec une responsable du parc naturel régional ainsi qu'avec des élus des communes voisines ayant fait le choix de l'extinction totale ou partielle de l'éclairage public une partie de la nuit. Cela se passe donc le mercredi 20 octobre à 20h30 à l'espace Jean Racine de Saint-Rémy-les-Chevreuses. La salle est grande et c'est gratuit. On vous demandera juste votre passe sanitaire.
Bonjour, je m'appelle Iris. Nous portons avec Thomas Braille et le groupe national de surveillance des arbres un projet dont le rayonnement sera national. Ce projet tient en quatre mots, un arbre, une école. Donc l'objectif est simple, planter un arbre dans chaque cour d'école de France en octobre 2022 pour initier un grand travail d'éducation à la nature sous forme de pédagogie active. Donc pour un arbre planté en France, nous planterons aussi un arbre dans la ceinture verte au Sahel. Donc pour nous soutenir, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Bluebees sur le projet Un arbre, une école. On a jusqu'au 20 octobre pour boucler la cagnotte. On compte sur vous pour nous aider à relever ce défi. Merci à tous du fond du cœur.
Bonjour Mathieu, c'est Gisèle de Montargis. Pourquoi est-ce que les concessionnaires de voitures, par exemple, s'approprient des terres arables qui sont avec un excellent coefficient de fertilité et ne vont pas s'installer sur des garages, des friches industrielles pleines de cochonneries dues au pétrole? Et de cette façon, ça serait un petit peu plus logique, il me semble, non? Au revoir.
Salut La Terre au Carré, c'est Étienne depuis le lac du Lair entre Marne et Haute-Marne, où le premier comptage de grues cendrées a été effectué dimanche matin 10 octobre par les bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne qui ont dénombré à cette occasion 14 520 grues cendrées au lever du jour, de quoi confirmer le début de la migration post-nuptiale de cette espèce qui fréquente ce site par dizaines de milliers chaque année pour y faire escale avant de reprendre leur route vers le sud quand elles ne choisissent pas d'y passer l'hiver. De très bon augure avant la 14e édition de la fête de la grue qui déroulera son programme, plus de 300 heures d'animation du 23 au 31 octobre pour célébrer le retour du plus grand échassier d'Europe, l'occasion de passer de nombreux messages sur les enjeux de préservation des milieux et pour sensibiliser sur notre place et nos responsabilités au sein de la nature. Le programme complet de la manifestation est à retrouver sur le site de l'Office du Tourisme du Lac du Lair. Merci, La Terre au Carré.
Le répondeur de La Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Et une histoire de sol cet après-midi, ce sol sur lequel nous marchons et qui fourmille de microbes, d'animaux et de végétaux, mais aussi de composants chimiques d'une très grande variété. Le sol comporte de la matière dans tous ses états solides, liquides et gazeux, et c'est une explosion de vie qui fertilise les océans, régule le cours des rivières et modifie même le climat. Mais ce monde nous reste encore largement méconnu et le résumé n'est pas chose aisée. Voilà ce qu'on peut lire dans L'origine du monde, une histoire naturelle du sol, à l'intention de ceux qui le piétinent. Et que vous publiez Marc-André Sellos chez Actes Sud. Bonjour à vous.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver dans La Terre au Carré, vous qui nous avez accompagnés la saison passée avec votre chronique du vivant. Vous publiez donc cet ouvrage très complet qui nous emmène pour un périple à la découverte donc des composants du sol et de ses mécanismes les plus secrets. Et on se retrouve donc dans un instant, évidemment, pour en parler. Il y a déjà des questions pour vous sur l'appli France Inter avec les notes vocales, sur les réseaux sociaux et sur la page de l'émission. 14h30, Camille passe au vert. Bonjour Camille Crenier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Au programme.
Eh ben, je vais rebondir sur ce que disait Étienne sur notre répondeur. La migration des oiseaux, effectivement, c'est en cours. Fini la reproduction, l'hiver arrive. Donc désormais, il s'agit de pouvoir continuer à se nourrir.
Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestara et préparé par Lucie Sarfati aujourd'hui avec Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et Rémi Sistiaga à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Je ne vois pas ce qu'il y a de plus précieux sur cette planète que le sol. Le sol, c'est un espèce d'appareil digestif qui est capable de digérer tout ce qui tombe dessus. C'est l'automne. Les feuilles tombent, elles se posent à plat sur le sol. Revenez à cet endroit-là au printemps et vous aurez la surprise de voir que les feuilles ne sont plus à plat, mais qu'elles sont pliées comme ça, avec la terre qui passe dans la gouttière au milieu. Ça, c'est le travail des vers de terre. C'est eux qui tirent les feuilles vers le bas. Et puis, une fois qu'elles sont dans le sol, ils mangent la feuille morte, ils la digèrent. Ils digèrent d'ailleurs tout ce qu'il y a dans le sol, y compris le sol lui-même. Et dans le fond, un très bon sol, c'est un sol qui est fait essentiellement d'excréments de lombriques.
Vous avez reconnu sa voix, Marc-André Sellos.
C'est Francis Allais, bien sûr.
Voilà, le botaniste Francis Allais en 2013, il parle là des vers de terre, vous l'évoquez également dans votre livre, mais beaucoup d'autres choses encore autour du sol, à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, donc l'origine du monde chez Actes Sud. Alors évidemment, un mot tout de suite sur le titre, hein, puisque ça nous fait plus penser au tableau de Gustave Courbet qu'au sol, a priori.
Ah, j'y ai pas pensé.
Ah oui, tiens, bien sûr, il y a même un petit dessin dans votre livre.
Oui, il y a la version de l'illustrateur Arnaud Raphaëlian.
Qui vous rencontre, d'ailleurs, hein. C'est vous qui êtes dessiné là, hein ?
Ah, il y a aussi un tableau de Courbet. Il y a Bonjour Monsieur Courbet qui est singé par nous un peu plus loin. Oui.
C'est ça. L'origine du monde, ça résume bien finalement qu'est le sol.
Francis m'a dit l'autre jour justement, Marc-André, tu as tort. Alors, voilà, c'est Francis. Tu as tort parce qu'il y a eu du sol après l'origine du monde.
Ouais.
Mais le monde tel que nous le vivons, l'atmosphère, la fertilité des océans, vous le disiez tout à l'heure, et la production, et les paysages, et la production alimentaire, ça, bah c'est les sols qui sont l'origine du monde tel que nous le vivons.
Ouais.
Et on ne le percute pas trop, parce qu'ils font tellement bien leur travail, que ça se passe plutôt bien en moyenne, il faudrait que ça dure.
Ouais, mais c'est le monde d'avant les plantes que vous décrivez comme un sol vraiment très, très mince. Ça ressemble à quoi d'ailleurs ? C'est une espèce de pellicule.
Des minces croûtes de bactéries comme on a sur les façades ou sur les falaises qui étaient entraînées par les premières pluies parce qu'il n'y avait pas les racines des plantes pour retenir tout ça. Et donc, il y avait des dynamiques d'ouède. C'est-à-dire qu'après la pluie, il y avait de puissants écoulements et puis entre les pluies, tout était sec. Et tout partait à la mer. Bon, alors, en fait... depuis, il y a des sols, et en fait, l'essentiel des précipitations est retenu dans les sols.
Ouais.
Ça permet de nourrir les plantes en eau, et puis ça permet d'abord d'éviter des crues après la pluie, et de soutenir les rivières à l'étiage.
Alors, vous commencez votre livre en proposant au lecteur de prélever un petit bloc de sol, hein, histoire de faire une expérience. Ben, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec notre stagiaire Leonardo Kahn. Nous sommes allés à l'extérieur de la maison de la radio, on a fait notre petit marché, et par chance, j'avais même une petite truelle dans mon tiroir.
Oh là là, qu'il est prévoyant.
Voilà. Et on a ramassé du sol.
Excellent.
Alors, c'est le sol de la maison de la radio, donc il y a beaucoup de chiens qui le fréquentent. Voilà.
Ah, donc il est riche.
Il est riche,
exactement. Positif.
Est-ce qu'il est riche en excréments de lombriques, comme expliqué
Alors,
Francis Allais.
Alors, je l'ai toujours pas vu, parce qu'il est caché dans son sac, là.
Mais il y a des vers de terre en plein centre-ville de Paris ou d'autres grandes villes.
Oui, oui, ça c'est... Pour le coup, hein, leurs œufs se déplacent assez bien, sans doute sur les pattes des oiseaux, des choses comme ça, et ils colonisent rapidement.
Alors,
c'est un sol, effectivement,
regardez, le sol du 16e arrondissement. Qu'est-ce que vous disiez, Marc-André, il est quoi ? Il est,
bah, il
ah,
est
vous,
bien
vous
grumeleux.
Le sentez. Le premier truc que vous avez fait, c'est que vous l'avez pris et vous l'avez senti. Pourquoi ?
Ouais. Alors, parce qu'il y a deux grands types de sols. Il y a les sols très fertiles, où les bactéries attaquent très vite la matière organique et produisent très vite en la décomposant l'azote, le phosphate que vont manger les plantes. Ça, ces sols-là, ils sentent la terre. Parce que, savez-vous, Camille, la terre, l'odeur de terre, qu'on appelle la géosmine, c'est l'odeur de bactéries du sol, qu'on appelle les actinobactéries. Et d'ailleurs, c'est une odeur que vous connaissez tous, parce que quand il pleut, elle s'échappe du sol quand la pluie remplit les interstices du sol, et elle donne cette odeur d'après la pluie, qu'on surnomme aussi le pétrichor. Bon, autre type de sol, ceux dominés par les champignons. Alors là, recyclage plus lent, c'est les sols forestiers, la matière organique s'accumule, et eux, ils sentent le champignon, c'est une autre molécule, l'octénol. Quand on abîme les champignons, quand on coupe un champignon de Paris, ça sent comme ça. Ça, ils sentent, là je l'ai senti, ils sentent la bactérie, et ça tombe bien parce que les vers de terre viennent dans les sols à bactéries,
ah,
car ils digèrent les bactéries.
Ouais.
digèrent pas la matière organique végétale qui est tombée au sol. C'est même tellement mauvais pour eux, les substances qu'il y a dedans, les tanins et autres terpènes, qu'ils sont obligés de prendre de l'argile qui fait un peu comme du smecta pour nous. Ça fixe toutes les molécules un peu toxiques. Mmh. Et alors, c'est ce qui est génial, c'est que dans les crottes de vers de terre, on va retrouver la matière végétale qu'ils n'ont pas digérée, puisqu'ils digèrent que les microbes qui attaquent cette matière, et de l'argile mélangée. Et ça, ça moule le sol, ça construit le sol. Leurs crottes sont un fin mélange de matière organique et d'argile, hyper fertile.
Alors, quand vous invitez justement vos lecteurs à faire l'expérience, qu'on a fait nous en ramenant cette petite motte de terre, là, donc, qu'est-ce qu'il exprime ce sol ? Alors, vous dites qu'il y a une odeur, d'accord ? Mais à l'œil nu, comme ça, il y a quoi ? Il y a plusieurs grains au fond aussi, hein ?
Ah ben, il y a des choses de toute taille. Il y a des morceaux reconnaissables de sable, il y a des morceaux plus fins. Ça fait un peu, quand je frotte là, ça fait un peu comme les ailes des papillons quand on les touche. Ça, c'est des limons. Et puis, si on le goûtait, mais alors, parce que vous m'avez dit sur les chiens.
Non, le faites pas, vraiment, je vous le conseille pas.
Autant vous m'avez déjà fait manger une feuille, autant le sol de Paris, je suis pas d'accord.
Non, mais surtout avec ça.
Alors, on va pas le goûter, mais en fait, il happe sans doute à la langue, quand on pose la langue dessus. Oui. Il y a sans doute beaucoup d'argile. Là, il est très équilibré dans les différentes classes de petits morceaux de roche.
Ouais. Mais ça a l'air d'être un sol de bonne qualité, comme ça, à vue d'œil ou pas ?
Honnêtement, ça a l'air d'être plutôt un sol de remblai. Ah. C'est-à-dire un sol venu d'ailleurs où tout est un peu mélangé, mais il a repris vie. Mais c'est un sol transplanté, très clairement.
Mmh. Et un sol vraiment sain, alors si on doit dire, normalement, il est composé de quoi ? Alors, il y a quoi dans le sol finalement ? Qu'est-ce que ça cache ce terme, sol ?
Alors, je ne sais pas à quoi ressemble un sol sain, si ce n'est qu'il y a dessus la végétation, une végétation diverse qui se développe et qui est productif. Ça, c'est un bon indice. Mais pour répondre plus précisément à votre question, Camille, le sol, c'est un mélange d'air, de roche et de matière organique qui sont en devenir. La matière organique est en train, on l'évoquait tout à l'heure, de se décomposer sous l'effet des microbes qui petit à petit en relibèrent l'azote, le phosphate qui va resservir aux plantes. Les petits morceaux de pierre, mes petites particules de limon, mes petits morceaux de sable sont en train d'être attaqués d'ailleurs plus par les microbes que simplement par l'eau qui dissolve ça pour récupérer du potassium, du phosphore, du fer. Et puis il y a aussi l'atmosphère du sol, l'air qui rentre dans ça et elle aussi elle est en train de devenir autre chose parce qu'elle est respirée. Le sol respire, hein. L'oxygène est consommé, et puis l'azote de l'air est petit à petit transformé en protéines par certaines bactéries qui donneront le stock d'azote du sol. Donc c'est de l'air, de la matière organique et de la roche en devenir.
Mais ça fait quoi comme épaisseur par exemple un sol ? Ça dépend complètement de l'endroit où on se trouve ou il y a une moyenne ?
Au fond, on pourrait presque appeler sol les petits revêtements de bactéries qui sont à la surface des bâtiments. Donc ça fait quelques pouillèmes de millimètres. Ouais. Dans nos régions, des sols mûrs et productifs vont faire jusqu'à 1, 2, 3 mètres d'épaisseur. En zone tropicale, où l'attaque chimique est plus forte de la roche, on a des sols qui peuvent faire plus de 100 mètres d'épaisseur. Évidemment, la partie vraiment productive pour les racines est en surface dans ces cas-là. C'est très variable en épaisseur selon les endroits.
Ouais. Il y a le mot terre que vous employez peu finalement. C'est un choix de votre part ou pas ?
Parce que
moi j'ai l'impression de vous avoir rapporté de la terre là.
Oui.
Hein, c'est le cas.
Alors le sol, ça contient ce qu'on appelle la terre, même si ce mot terre, on l'applique plutôt aux sols qui sont riches en matière organique et donc un peu noirs, comme celui que vous avez ramené. Mmh. Mais c'est un terme assez général que j'ai pas senti le besoin d'utiliser.
C'est vrai.
Je sais pas.
On sent que vous l'évitez, en tout cas dans votre ouvrage. Hein.
Ben, c'est un terme du vocabulaire commun qui est un tout petit peu imprécis et très connoté. Alors du coup, j'ai voulu éviter que les gens aient des idées reçues en lisant mes mots.
Oui.
Et donc j'ai dit sol.
Sol, ça vient d'où ? Est-ce qu'on peut juste faire un petit point étymologique sur l'origine du mot sol ? Est-ce qu'on sait ?
Ça vient du latin solum. En gros, c'est ce sur quoi on a les pieds, c'est le substrat. Voilà. Et ça vient tard, par contre. Hein. L'étude des sols, la pédologie, elle apparaît sous la plume d'un dénommé Fallou, un Allemand, en 1862. Au début, ce qu'il y avait sous nos pieds, on pensait que c'était une extension de la roche. Un peu comme des composants géologiques. Dans l'imaginaire scientifique, ça ne s'individualise qu'à la fin du 19e.
Allez, on va parler solum. Alors cet après-midi dans la Terre au Carré, on évoquera le climat, labour ou pas labour, grande question. Tout ça autour de l'origine du monde, ça paraît chez Actes Sud. Et vous en êtes l'auteur, Marc-André Sellos. Curtis Harding.
La Terre au carré sur France Inter.
Lorsqu'on s'enfonce dans le sol, on découvre un monde de jardiniers invisibles qui préparent la terre à l'arrivée de l'eau. En passant et repassant à l'intérieur d'imperceptibles galeries, ces micro-arthropodes, dont la taille ne dépasse pas le dixième de millimètre, organisent une capillarité extrêmement fine qui va faciliter l'infiltration de l'eau dans le sol.
Voilà, extrait d'un documentaire sur les habitants du sol sur France 5 en mars 2016. Et Marc-André Sellos, donc notre invité pour en parler cet après-midi. Avec déjà pas mal de questions des auditeurs, on va y arriver tout de suite avec Camille. Juste un mot justement sur les animaux et ce monde invisible, parce que vous expliquez ça au fond. Le sol nous est assez méconnu parce que, bah, effectivement, on le voit pas forcément à l'œil nu. Hein.
Oui, absolument. D'abord, il est pas transparent et puis beaucoup des habitants du sol sont petits. Il faut compter en gros une tonne et demie de bactéries et 3,5 tonnes de champignons par hectare.
Ouais.
Et ça fait l'équivalent d'une centaine de moutons. Les animaux, finalement, sont pas si nombreux que ça, même si le quart des espèces animales connues vivent dans le sol. Il y en a 1,5 tonnes, ouais, une vingtaine de moutons. Et puis, il y a les racines des plantes, au fait. Hein. Il faut voir que la plante est un habitant partiel du sol. Un tiers de sa masse est sous terre. Mmh. Et ça fait de nouveau, en gros, 5 tonnes de racines, ça fait de nouveau une centaine de moutons. Sur un hectare, il y a là 220 moutons, 220. En gros. Et en fait, il y a entre la moitié et les trois quarts de la masse vivante se trouve dans le sol. Et si vous ajoutez que, en termes de façon de vivre, vous avez une plus grande diversité de façons de vivre dans le sol, les écosystèmes terrestres, c'est le sol. Ouais. Nous sommes à la périphérie, nous sommes dans la banlieue des écosystèmes terrestres. Et comme c'est pas transparent, quand on regarde un paysage, on croit que c'est ça, un écosystème terrestre. Ouais. Ben non, l'essentiel est dans le sol.
Donc c'est ce qu'on appelle la biomasse, Marc-André?
La biomasse,
c'est ça,
voilà.
C'est vraiment majoritairement représenté par le sol.
Oui, et si vous ajoutez la biomasse morte, ouais, les restes de feuilles, les cadavres de ceci, de cela, notamment, et bien là, vous avez 60 à 90% de la biomasse vivante et morte qui se trouve sous terre. Ouais. Ça se passe dessous. Et c'est pour ça que j'invite les gens à s'enterrer. C'est parce que comme ça se passe dessous, la visite des coulisses... Mais oui, mais c'est noble de s'enterrer.
On a le temps, non, en même temps.
Les coulisses sont là. Et les moyens d'action sont là. En fait, c'est un livre qui n'est pas du tout un livre de technique agricole ou de technique de jardinage, mais qui redonne les clés de comment ça se passe pour agir mieux, plus durablement.
Alors, les questions, Camille, il y en a plein,
bien,
déjà.
Christophe, vous nous écrit sur l'application France Inter. Mon beau-père me pique les feuilles des arbres qui jonchent le sol de mon jardin depuis quelques années. Petite pique au beau-père, au passage. Pour les mettre sur son potager bio, certes, mais cela ne va-t-il pas appauvrir mon sol à moi à la longue, puisque qui dit pas de feuilles, pas de verre, pas de verre, pas de caca de verre, pas de caca de verre, pas de nutriments, et plus d'arbres à terme? Point d'interrogation, Marc-André Sellos.
Alors moi, je veux pas m'aventurer dans l'histoire de famille, hein. Par contre, ce qui est certain, c'est que il déshabille Pierre pour habiller Paul. Alors c'est très bien pour son potager, à condition que ce soit pas des feuilles qui contiennent trop de tanins et de choses comme ça, qui correspondent à des dynamiques de la végétation différentes, hein. Mais ça peut permettre d'enrichir les sols. Par contre, ça appauvrit les sols de départ. C'est surtout ça le problème. Et puis si c'est trop riche en tanins, ça peut être problématique pour le sol d'arrivée, parce que ça va modifier les habitants qui peuvent vivre là. Mais vous savez, l'homme peut améliorer les sols. Faut le savoir, parce que ça, c'est un truc positif. Les plague and soil, qui sont des sols du nord de l'Europe, sont des sols où pendant des générations, on a déposé la paille des animaux qui rentraient de la pâture, les cendres. C'est des sols qui sont entre 10 et 50 centimètres au-dessus des sols environnants, et qui ont été développés dans des régions sableuses où les sols étaient extrêmement pauvres. Ces sols-là, sont extraordinairement riches, même après qu'on ait abandonné leur entretien actif avec des apports organiques, aujourd'hui continuent à vivre avec une fertilité extraordinaire, alors que ça fait 100 ans que plus personne n'amène de matière organique. L'homme peut construire des sols riches par apport.
Eh bien justement, sur la question de la richesse des sols, voici l'intervention de Annie qui vient de nous laisser une note vocale. Elle habite à Saint-Benoît-des-Ondes.
Bonjour à tous. Eh bien, les techniques de la permaculture me semblent vraiment très adaptées en fait à la transmission de sols plus riches en minéraux, en tous les nutriments nécessaires à une bonne nourriture, à une bonne agriculture aussi. Merci, au revoir.
Alors, est-ce qu'il y a une méthode qui fait ses preuves plus que d'autres pour justement conserver la richesse des sols, Marc-André Sellos ?
Il n'y a jamais de règle générale, il n'y a que des terroirs. Si vous croyez aux terroirs, c'est qu'il y a des solutions localement adaptées. Mais clairement, d'une façon générale, il vaut mieux pas labourer et avoir toujours quelque chose, même entre deux cultures, qui couvre le sol. C'est ça la permaculture. Et effectivement, la permaculture ou agriculture de conservation, elle a ceci d'intéressant, c'est qu'en ne labourant plus, en couvrant toujours le sol, vous limitez l'érosion. Or, je rappelle que quand on laboure, on augmente l'érosion d'un facteur 10 à 100.
Ouais.
De plus, vous avez de la matière organique qui va tomber au sol et qui va à la fois entretenir la vie du sol, et puis la matière organique, c'est un liant. Ça va s'opposer encore à l'érosion, et puis comme ça relie les grains entre eux, ça stabilise les trous. Donc les sols respirent mieux, l'eau y rentre mieux. Annie a tout à fait raison. C'est vraiment une perspective d'avenir. Bon, il y aura sans doute des ajustements à faire, il n'y a jamais de solution éternelle, mais clairement, ça résout beaucoup de problèmes posés par l'agriculture conventionnelle, notamment le labour.
Justement, pour rebondir sur le labour, Patrice nous écrit, en termes de rendements agricoles, il existe une dualité entre soit labourer profondément, ce qui détruit les micro-organismes du sol, soit utiliser des intrants. La seule solution, demande-t-il, n'est-elle pas de conjuguer de nouvelles pratiques manuelles ergonomiques favorisant de nouveaux emplois avec des cultures variées sur une parcelle ?
Il y a plusieurs choses là. C'est vrai qu'effectivement, on peut faire des apports sans labourer, notamment des apports de matière organique. C'est tout à fait possible. Et puis, il y a la question de la diversité des plantes. Alors ça, c'est intéressant parce que cette diversité de plantes, ces plantes interagissent par leurs racines avec tout un tas de microbes. Si vous avez diverses plantes, vous aurez divers microbes qui seront soutenus. Il y a deux grands types de microbes qui interagissent avec les racines des plantes. Il y a les champignons qui vont faire les courses, qui vont chercher très loin de la racine, de l'azote, du phosphate, des choses comme ça, en échange de sucre. Et puis, sur les plantes qu'on appelle des engrais verts, ces plantes élèvent en fait des bactéries qui, je vais en parler tout à l'heure, transforment l'azote atmosphérique en protéines, de là en azote du sol.
Les plantes élèvent des bactéries, ça veut dire quoi ?
Mais en fait, c'est une symbiose. Elles les abritent dans leurs racines.
C'est un échange de services.
Elles les nourrissent en sucre. Et inversement, ces bactéries leur donnent de l'azote. Et ça, c'est intéressant parce que, en réalité, le but n'est pas de transformer l'agriculteur en microbiologiste, mais qu'il ait des gestes compatibles avec les microbes. Or, depuis Columelle dans l'Antiquité romaine ou chez les Incas, on sait utiliser les plantes, les légumineuses donc, qui en fait cultivent d'une certaine façon indirectement les bactéries qui dans le sol enrichissent en azote. On sait faire ça. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, l'entretien du couvert, ça permet d'entretenir les microbes. On n'a pas besoin d'être microbiologiste ou de rajouter des microbes, il faut juste bien semer en fonction de ce qu'on veut qui se développe dans le sol, et ensuite, le sol sera durable et fonctionnel.
Alors, la question du labour, on y reste un petit instant, parce que c'est assez clivant, effectivement, entre ceux qui pratiquent ou pas, mais qui pratiquent quand même largement. C'était l'extrait d'un reportage de France 2 en mai 2016. On commence avec Erwan Karadec, qui est breton, et qui, lui, ne pratique pas le labour.
Quand on aura compris qu'il faut arrêter de labourer les sols, on aura fait un grand pas.
Nous avons donc comparé deux parcelles cultivées. À droite, ce champ labouré chaque année. La terre est boueuse, l'eau ne s'infiltre pas. Les cultures pousseront difficilement. À gauche, un champ voisin non labouré depuis 15 ans. La terre est grumeleuse, souple et fertile. Un exemple de plus en plus rare. Pourtant, 95% des agriculteurs labourent. Comme Jean-Luc Palin en Gironde.
Ça sert justement à décompacter légèrement la terre qui a passé tout l'hiver à s'étasser. Ça évite à l'herbe de pousser, c'est-à-dire que là également on enfouit tout ce qui est herbe, graines de mauvaise herbe, et on enfouit également tout ce qui est champignons.
Pour cet agriculteur, le labour est indispensable sur ces terres sableuses.
Ce qui est le plus efficace pour nous, pour la terre, pour la vie microbienne du sol, c'est le labour. Donc aujourd'hui, se passer du labour, moi je suis contre.
Sensibilisés à l'état de leur sol, les agriculteurs français commencent à changer leurs pratiques. En ne laissant par exemple jamais la terre à nu, elle est toujours couverte par des végétaux pour la protéger, une sorte de manteau.
Voilà ce que vous expliquez justement, Marc-André Sellos. Les pratiques commencent à évoluer quand même un petit peu sur ces questions.
Oui, et ces agriculteurs ont tous les deux raison en fait.
Ouais.
Il y en a un qui a raison à court terme, et c'est pour ça qu'on a adopté historiquement le labour. Ça remonte la fertilité qui est en profondeur, celle libérée par les roches, ça aère et ça désherbe. Le problème, c'est que ça augmente l'érosion d'un facteur 10 à 100.
Ouais.
Ça veut dire que nos sols sont en train de fondre sur nos yeux. Aujourd'hui, l'humanité est responsable de près de 90% de l'érosion. Ils sont en train de fondre. À long terme, effectivement, d'abord les pores formés, comme les microbes respirent plus parce qu'on met de l'air dans le sol, ils détruisent la matière organique, donc les pores sont moins stables, parce que je rappelle que la matière organique colle les morceaux de sol.
Ouais.
Donc il va falloir relabourer pour aérer. Ça désherbe, mais ça fait rentrer des graines de plantes comme les coquelicots qui savent vivre longtemps, enfin survivre sous le sol et puis pouf, exploser une année où elles reviennent en surface. Donc ça désherbe pas durablement. Et puis, bon, ça détruit la vie du sol. S'il y a des oiseaux derrière le trait de charrue, c'est qu'ils sont en train de se gaver de vers de terre, dont on a dit tout à l'heure, qui faisaient les fameux grumeaux,
ouais.
Hein, qui font des beaux sols. Donc, à long terme, le labour n'est pas une option, mais à court terme, c'est intéressant. Mmh. Simplement, aujourd'hui, effectivement, il y a des moyens de faire autrement. Je ne dis pas que partout, il ne faudra plus labourer. Il y a peut-être des sols limoneux qui se tassent beaucoup, qu'il faudra détasser un peu. Mais en moyenne, maintenant, faut cesser de labourer la plupart du temps.
Marc-André Sellos, vous êtes l'invité de La Terre au Carré. On parle du sol à l'occasion de la sortie de votre livre L'Origine du Monde chez Actes Sud.
France Inter. La Terre au Carré.
Et à 14h30, l'heure de Camille Passauvert.
Et pour vous mettre dans l'ambiance du sujet du jour, parce que ça marche à tous les coups, un peu de musique.
Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée.
Vous chantez pas, Mathieu, non?
Mais j'adore ces chansons,
ah.
Michel Delpech.
Alors, oui. Je savais que ça marcherait. Donc, c'est pas de chasseurs, hein, par contre, dont je vous parle, mais de ces oiseaux. Tous ces oiseaux qui sont en train de migrer, les migrations post-nuptiales, hein, fini la reproduction. Et ce phénomène, Maxime Zucca le connaît par cœur, puisqu'il est ornithologue et auteur du livre La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel.
En octobre, on a toute une grande vague de migrateurs qui font des migrations sur de plus petites distances et qui migrent la journée, le matin. Et ce qui fait qu'on les voit. Et au mois d'octobre, on a des défilés de milliers, de dizaines de milliers d'oiseaux le matin, des pipites, des bergeronnettes, des pinsons, des alouettes, des pigeons. Viennent ensuite les grues.
Des oiseaux qui partent en direction de l'Europe du Sud ou du Sahara. Les migrations d'assez courte distance, hein, parce que les autres qui vont encore plus au sud sont partis pour certains dès le mois d'août, par exemple les martinets noirs ou les tourterelles. Mais pas que, objectif à chaque fois, trouver une terre où il y aura de quoi se nourrir.
Pour ceux qui sont partis en août, par exemple la bonde rapivore, elle se nourrit d'insectes, elle se nourrit beaucoup d'abeilles, de guêpes, etc. Et donc les ressources alimentaires s'épuisent le mois de septembre arrivant et donc elles partent à la recherche de plus de nourriture ailleurs. C'est le cas aussi pour certains rapaces qui se nourrissent de proies à sang froid, comme les circaètes, Jean Leblanc, qui chassent les serpents, qui sont évidemment pas disponibles en hiver.
Mais certains rapaces, comme les buses ou les milans royaux, bougent de moins en moins de France. Et ça, c'est une conséquence directe du réchauffement climatique, en plus de mettre parfois un petit peu la zizanie dans le calendrier. Explication avec la chercheuse en écologie Manon Clairbeau, qui est actuellement post-doctorante à l'université de Cork, en Irlande.
On a des espèces qui vont arrêter de migrer, parce que si les conditions dans leur site de nidification reste favorable pendant l'hiver, il n'y a pas nécessairement un intérêt pour elle à faire ces grands trajets qui peuvent être coûteux en énergie et risqués.
Alors, parce qu'on a beau risquer, on a beau, nous autres humains, nous extasier devant ces migrations, c'est pas toujours aussi poétique qu'on ne le croit, monde de cruel, hein, y compris à 3000 mètres dans le ciel.
La mortalité pendant la migration, c'est souvent lié aux difficultés à s'alimenter, à des événements météorologiques extrêmes, ce qui est très fréquent en octobre, on a souvent des grosses dépressions, des tempêtes, etc. Et puis il y a aussi tout le lot de prédateurs qui suivent les petits passereaux migrateurs. C'est le cas des éperviers, c'est le cas des faucons émérillons qui calent leur migration sur celle des alouettes, qui les suivent tout au long et qui les traquent et qui se nourrissent des alouettes fatiguées en migration. Voilà, il y en a plein qui en profitent évidemment.
Les petits malins. D'ailleurs, tant qu'on est dans le chapitre des petites combines de certains oiseaux, écoutez plutôt les techniques de vol des rapaces.
Les rapaces, ils sont particulièrement flemmards. Bon, ça s'explique, ils ont une grande taille et ils dépenseraient beaucoup d'énergie en vol battu. Donc les rapaces, ils ont une stratégie qui consiste à profiter des courants ascendants d'air chaud, des thermiques, comme le font les parapentistes. Et donc les rapaces les empruntent en planant et s'élèvent très rapidement et parfois jusqu'à 1000-1500 mètres de haut et arrivent au sommet du thermique, se laissent glisser en planant jusqu'à trouver un thermique suivant, etc. Comme ça, autant que possible tout au long de la migration.
Voilà, il plane, hein, en évitant d'ailleurs au passage de passer au-dessus des mers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ces thermiques au-dessus des mers et des océans. Mais donc, Manon Clairbault le disait, il y a des espèces qui deviennent sédentaires, et la France est même une destination aujourd'hui pour des oiseaux qui viennent d'endroits bien plus froids.
Des canards, comme le canard siffleur, qui lui donc, vient d'Europe du Nord, et il niche à des latitudes assez importantes, et on le retrouve l'hiver aussi sur nos littoraux.
Voilà, on les voit arriver, hein, idem pour des rapaces venus de Scandinavie, d'Allemagne, de Pologne, voire de Russie. D'autres, un petit peu comme sur une aire d'autoroute, font étape chez nous. Et oui, ils parcourent des milliers de kilomètres, hein, donc c'est pas la pause toutes les deux heures, mais il y en a quand même besoin.
Pour que les oiseaux puissent se nourrir de nouveau avant de repartir en vol, ou tout simplement se reposer ou se regrouper. Et donc en France, on a par exemple la Camargue, qui est très connue pour ça, ou encore le lac du Der, que vous pouvez voir en ce moment, par exemple, des attroupements de grues cendrées, en fait, qui viennent du nord de l'Europe et qui vont rejoindre après leurs étapes en France, la péninsule ibérique ou encore l'Afrique du Nord. Ça concerne aussi des petits passereaux, comme par exemple le phragmite aquatique, qui lui vient d'Europe de l'Est, et par contre, lui, on le retrouve sur nos littoraux en Atlantique notamment.
Voilà, donc les oiseaux que vous apercevrez sont peut-être au milieu de leur grand voyage ou en train de partir, hein, les dernières hirondelles, les cigognes, les rouges que noirs, les buses, les faucons cresserelles, les éperviers d'Europe, c'est en ce moment. Vous pourriez aussi apercevoir des milliers de petits passereaux qui recouvrent le ciel.
Y compris en plein centre-ville, si on lève la tête là un matin, plutôt par vent de sud, par vent de sud-est, un petit peu léger, on peut avoir vraiment des milliers d'oiseaux qui passent, ça peut être assez impressionnant.
Et voilà, et ça ce n'est que ce qu'on voit le jour, hein, parce que la nuit ça ne s'arrête pas, il y a des radars pour s'en rendre compte. Et alors si vous voulez vous amuser un petit peu, vous allez voir sur un site qui s'appelle Birdcast, c'est une sorte de météo de la migration des oiseaux, ça se passe aux États-Unis, donc vous avez vraiment toutes les cartes avec ce qui se passe. Et puis ensuite, il faudra attendre le printemps, hein, pour les voir revenir avec l'objectif de faire les nids et de se reproduire, bien sûr.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter sur la page de la Terre au Carré.
Marc-André Sellos, le sol évidemment, les oiseaux, le sol contient la nourriture des oiseaux et ils n'ont plus d'insectes au moment de l'hiver. C'est important aussi de les préserver pour tout l'écosystème qui entoure.
Oui, mais oui, en fait, bon, il faut voir que le sol, il existe en dehors de lui-même. C'est une chose que j'essaie dans le livre d'expliquer. Il existe comme source de nourriture, mais même très loin de nous, hein. Voilà. Alors maintenant, allons dans l'océan. Pourquoi les pêcheurs bretons, ils se battent pour aller sur les côtes de Grande-Bretagne, qui leur sont maintenant interdites ou difficiles d'accès? Pourquoi ils vont pas juste pêcher au milieu de l'Atlantique? Parce qu'il n'y a rien à pêcher. C'est le long des côtes que c'est fertile. Et pourquoi c'est fertile le long des côtes? Parce que c'est là qu'arrivent les fleuves. Et d'où viennent les fleuves? Ils drainent l'eau qui a passé dans les sols et qui a capté une partie de l'activité des microbes qui décomposent la matière organique, qui altèrent la roche. En fait, les rivières sont des larmes de sol. Et ces larmes fertilisent l'océan. Et donc on dit souvent que 95% de ce qu'on mange vient du sol parce qu'on pense à l'agriculture et à l'élevage et aux cultures. Ben non, c'est 100%. Parce qu'en fait, la fertilité de l'océan, c'est la fertilité venue du sol. Et ça, c'est vraiment important. C'est qu'en fait, on mange du sol tout le temps, même quand on avale une douzaine d'huîtres.
Et donc, ça bénéficie à toutes les espèces, évidemment, qui gravitent autour. Exactement. Marc-André Sellos, on parle du sol avec vous et vous répondez aux questions des auditeurs.
Thank you.
Vertige, c'était Malik Djoudi sur Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Un ouvrage riche comme le sol, l'origine du monde, Marc-André Sellos chez Actes Sud. Alors c'est vrai que vous abordez énormément de thèmes et puis des expériences également qui sont menées comme celle de ce botaniste américain, expérience qui a démarré au 19e siècle et qui dure encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré des bouteilles dans le sol.
Oui, c'est des bouteilles
pour étudier la germination, c'est ça?
Avec du sable et puis les graines de 21 espèces. Donc il a enterré ça en 1879 et je crois que Camille avait fait une chronique là-dessus, parce qu'il y a une bouteille qui a été sortie en 2020.
Ouais.
Et là, il y a encore deux espèces qui germent, dont un silène. Et il y en a pour jusqu'à 2100, à continuer à voir les temps de survie des graines dans le sol.
Et ça, alors, c'est quoi la conclusion alors?
La conclusion, c'est que ça peut être long.
Ouais.
au bout de 40 ans, il y avait encore 12 espèces qui germaient. Et ça nous explique pourquoi le labour, finalement, désherbe à court terme, mais à long terme, c'est pas une solution, parce qu'il y a des graines qui passent dans le sol et qui sont très longévives, et qui vont attendre de revenir en surface à l'occasion de notre labour, pour germer. Je ne m'acharne pas particulièrement contre le labour, hein, parce qu'une fois de plus, il y a des circonstances où il faudra le mener. Mais on voit très bien que à long terme, effectivement, ces graines-là, elles subissent très bien le passage dans le sol.
La question du climat aussi, elle est très importante, parce que le sol joue un rôle sur le climat, ce que vous expliquez très bien dans votre livre. Et à quel moment les sols agricoles ont commencé à réchauffer l'atmosphère, Marc-André Sellos?
Alors ça, c'est la grande théorie de Rudiman, ouais, climatologue américain, qui remarque qu'on devrait entrer en glaciation depuis en gros 10 000 ans, et que ça ne s'est pas fait, et que notamment le taux de CO2 s'est stabilisé vers 10 000 ans, et il attribue ça au début de l'agriculture retournée, où on aère le sol en fait en labourant, et donc le sol respire plus, il déstocke du CO2. Et puis le méthane aussi, vers 5000 ans, commence à avoir une dynamique qui n'est pas attendue, et à réchauffer le climat, et ça c'est le début de la riziculture inondée en Orient. Donc vous voyez que le sol peut être un facteur d'effet de serre, parce qu'il peut respirer sa matière organique, et puis aussi, quand il y a de l'eau, il y a des bactéries qui respirent. Alors accrochez-vous, parce que pour nous, respirer c'est l'oxygène, mais quand le sol est ennuyé et qu'il n'y a pas d'oxygène, il y en a qui respirent au CO2. Ça fait du méthane, qui a 50 fois plus d'action sur l'effet de serre que le CO2. Quand il y a de l'eau dans le sol, et surtout quand on a mis des engrais, il y a des bactéries qui respirent au nitrate, et ça fait du protoxyde d'azote. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi le gaz hilarant, mais c'est pas si drôle que ça pour le climat, parce que c'est 240 fois plus efficace que le CO2. Ouais. Bref, le sol peut faire de l'effet de serre. Mais inversement, si dans ces sols agricoles où il y a de moins en moins de matière organique, vous remettez de la matière organique issue de l'élevage ou issue de nos poubelles, vous pouvez stocker du carbone. On compte que si on augmente chaque année de 0,4%, 4 pour 1000, hein, c'est d'ailleurs le nombre de cette initiative, la quantité de matière organique dans les sols, on stocke tout ce que l'humanité a produit de CO2 cette année-là. C'est pas une raison pour en produire plus, mais c'est une façon peut-être de stocker ce qu'on a déjà bazardé dans l'atmosphère.
Et replanter les forêts, c'est une bonne idée pour juste rapidement?
Eh bien oui, parce que ça stocke du CO2, mais non, parce que après, quand vous avez une forêt, vous avez une forêt. Ouais. Alors que si vous, hein, vous pouvez plus faire autre chose, il faut garder la forêt. Si vous avez remis du carbone dans le sol, vous avez amélioré sa fertilité et sa résistance à l'érosion, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour les générations suivantes, ça décide moins à leur place de mettre du carbone dans le sol que de refaire de la forêt. Mais comme on oublie le sol, on oublie de le voir comme une solution.
Pierre-Luc voudrait savoir, Marc-André Sellos, votre avis sur le développement des méthaniseurs qui récupèrent le lisier au lieu de l'épandre, source de revenus nouveaux pour les agriculteurs, nous écrit-il sur l'application France Inter, mais de privation d'apports naturels pour les sols.
Il a tout dit. Hein. C'est que effectivement, c'est pas mal parce que vous récupérez le méthane à des fins énergétiques. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Ça, parce que dans ces cas-là, vous bazardez du gaz à effet de serre dans l'air. Bon, et c'est pas toujours le cas, hein, qu'il n'y ait pas de fuite. Et le résidu que vous produisez est un résidu qui est en fait déjà fait de formes minérales d'azote et de phosphate. Alors oui, il fertilise, mais un peu à la façon des engrais minéraux. ils n'apportent pas de matière organique. Or, on vient de dire que la matière organique, elle est importante contre l'érosion, elle est aussi importante pour retenir l'eau. Or, dans des périodes où on a de plus en plus des étés secs, c'est important. Elle est intéressante aussi pour nourrir la vie du sol. Donc, les produits de méthanisation sont incompatibles avec la nécessité de remettre de la matière organique dans les sols.
Hugues, lui, se demande comment ça se passe, Marc-André Sellos, quand on dépollue un sol suite à une exploitation industrielle ou une pollution radioactive, par exemple Fukushima ou Tchernobyl. Est-ce que le sol se reconstitue de la même manière qu'avant ?
Alors, le sol, il vit très bien avec des métaux lourds. Hein. Il est habité par des plantes et des microbes qui vivent avec des métaux lourds. Hein. De ce point de vue-là, il est en bonne santé. Et par contre, il n'est pas compatible avec avec nous parce que les poussières sont toxiques et parce que les récoltes sont toxiques. Alors, on peut planter des plantes qui extraient des métaux lourds. On les récolte, on les brûle et on obtient dans les cendres des métaux lourds reconcentrés. Mais ça prend des dizaines d'années. Le problème des métaux lourds, c'est de ne pas les mettre dans le sol parce que quand ils y sont, les extraire, c'est dramatique. Et d'ailleurs, on a comme ça sacrifié des zones sableuses où on avait commencé à épandre les contenus des égouts de la région parisienne. C'est la plaine d'Achères qui est devenue, alors qu'elle était infertile, un grenier pour Paris. On a fait du maraîchage. Mais le problème, c'est que nos égouts sont mal triés. Et les eaux résiduaires qu'on épandait, bien sûr, il y avait de l'azote et du phosphate, mais il y avait plein de métaux lourds. En 2000, il a fallu arrêter la production parce que ces sols étaient intoxiqués. Vous savez, c'est eux qui ont intoxiqué des enfants roumains qui vivent maintenant sur ces terres pas très vivables, en fait. Hein. Récemment, l'IB avait fait un dossier là-dessus. Ils ont des taux de saturnisme, de plomb dans le sang absolument invraisemblables, juste parce qu'ils respirent la poussière de ces sols-là.
Alors justement, Tchernobyl, puisqu'on l'évoquait, les conséquences du nuage sur les sols précisément, on écoute ce petit reportage de 20 minutes et on le commente juste après.
À partir du 30 avril, hein, en fin de journée, une arrivée vers l'est de la France et on voit que le panache est resté sur la France pendant pratiquement les 5 premiers jours du mois de mai. Après le 5 mai, il y a un repli général du panache vers l'est de l'Europe.
Les radionucléides expulsés par le réacteur en fusion et contenus dans le panache en provenance de Tchernobyl contaminent les sols.
On a un phénomène de ce qu'on appelle le dépôt sec qui s'est produit. Une partie de ce dépôt va être interceptée par le végétal, le reste va aller directement sur le sol, sur la terre.
Voilà, le média c'est 20 minutes et c'était en 2016, donc pour parler de la catastrophe de Tchernobyl en 86, Marc-André Sellos, qu'en est-il de la qualité des sols aujourd'hui, dans l'Est en particulier, puisqu'on nous conseillait de ne pas manger les champignons à l'époque en France ? Est-ce que la présence justement de la radioactivité est toujours présente là ?
Elle a été due notamment au césium-137 qui dans les sols est peu mobile. Et les champignons comme les plantes, quand il y a des métaux lourds, pour elles, ce n'était pas la radioactivité qui était problématique, c'est le métal lourd en lui-même et sa toxicité. Le césium est un métal lourd. Eh bien, elles le prennent et elles le stockent dans leur vacuole. La vacuole des cellules des champignons ou des plantes, c'est une espèce de sac à déchets qui permet aussi de stocker la toxicité sous une forme inerte. Mais du coup, quand vous mangez ensuite ces végétaux-là, vous avez des métaux lourds, et notamment là, des quantités de césium qui n'étaient pas insupportables par le césium lui-même et par la radioactivité. Alors, c'est pour ça qu'il ne fallait pas ramasser de champignons et les manger. Il aurait fallu dire aux gens de ne pas le faire, surtout.
Mais aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, alors le césium a une demi-vie, je crois, d'une cinquantaine d'années. C'est-à-dire qu'au bout de 137, il disparaît assez vite. Et là, ça commence à être moins grave de consommer du champignon dans l'est de la France, où effectivement, il avait plu et ça avait augmenté le dépôt sec du dépôt parapluie.
Eh bien, ça tombe bien, parce que nous allons dans les Vosges bientôt, on pourra aller manger les champignons, Camille.
Tant mieux. D'autres questions pour vous, Marc-André Sellos. Maxime, par exemple, ou Benoît, qui demande ce qui se passe sous le sol des immeubles, des villes bétonnées depuis des décennies. On en parlait tout à l'heure au début de l'émission avec le sol de Paris. Qu'est-ce qui se passe sous tous ces immeubles, toutes ces autoroutes, toutes ces routes, tous ces entrepôts, partout ?
Alors, et la réponse courte, rien.
Il n'y a plus de vie ?
Il n'y a plus d'accès à l'air, il n'y a plus d'accès à l'eau, c'est bétonné, c'est recouvert. Et puis il y a la réponse un peu plus détaillée. Si on a décapé ces sols et qu'on les a remis ailleurs, réutilisés ailleurs, alors ils vivent ailleurs. Bon, c'est pas impossible.
Mais là, par exemple, sous la maison de la radio, il y a zéro vie dans le sol.
En fait, maintenant, souvent on décape vraiment pour faire les fondations, donc en fait, nos constructions sont souvent maintenant ancrées dans la roche qui est sous le sol. Mais historiquement, et dans les zones tropicales où il y a 100 mètres de sol, les maisons sont ancrées dans le sol. Mais ce sol, partout où il est recouvert, il ne vit plus. Alors, on peut le ressusciter éventuellement en le remettant à l'air. Mais il faut comprendre que ça, enterrer les sols, c'est une des grandes causes des disparitions des sols. En France, il disparaît tous les 10 ans l'équivalent d'un département français de sol. à cause de l'extension des villes et des zones de circulation, qui bien sûr se trouvent dans les plaines les plus fertiles. Les villes et les axes de communication sont dans les plaines, et si possible les villes dans des plaines fertiles. Donc là, il y a un vrai drame, et c'est un drame qui fait qu'aujourd'hui la France, même si elle est excédentaire au niveau financier pour l'exportation donc de biens agricoles, quand vous retirez le vin qui rapporte pas mal d'argent, vous apercevez qu'on flirte avec l'autonomie. On est en train de passer en dessous de l'autonomie, notamment par la baisse des surfaces agricoles liées à l'extension des zones urbaines.
Et on en parlait hier avec l'artificialisation des sols de l'Île-de-France en particulier. Une autre question de Niels, toujours sur l'application France Inter, qui se demande comment les premiers sols sont apparus s'il n'y avait pas de vers de terre. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf en premier, demande-t-il.
Alors les vers de terre, c'est des détails dans les sols. Excusez-moi de le dire, mais il y a quand même des sols chez nous, comme dans certaines forêts ou dans certaines landes, où il n'y a pas de vers de terre, et où le brassage est fait par les plantes, dont les racines, en poussant, injectent de la matière organique dans le sol. Il y a des fuites dans les racines. 10 à 40% de la photosynthèse finit par des fuites dans le sol. Donc les racines, elles envoient la matière organique dans le sol, et elles prélèvent des sels minéraux qui retombent en surface à leur mort. Donc, il y a un autre agent qu'on ne voit pas, comme toujours on ne voit pas les plantes, il y a un autre agent qui mélange les sols, moins vite que les vers de terre. Les sols seront moins fertiles. Mais sachez par exemple qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas de vers de terre. Sachez que dans beaucoup de nos forêts, il n'y a pas de vers de terre. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'il y a d'autres agents de brassage que les vers de terre. Alors maintenant, au début, qu'est-ce qui s'est passé ? J'en parle dans le livre, l'émergence des sols, c'est le moment où des algues se sont associées à des champignons. Ces algues faisaient la photosynthèse, ces champignons pouvaient exploiter la roche, et ça, c'est arrivé sur Terre. Et ça a commencé à faire beaucoup plus de production, donc beaucoup plus de déchets, et puis les réseaux de champignons et de parties souterraines des plantes ont retenu ce qui commençait à être un sol. Tous ces gens-là ont été encore plus forts avec l'eau retenue pour altérer la roche, et les sols sont nés, quelque part, il y a 450 millions d'années, et c'est la transition vers... Le cycle de l'eau qu'on connaît, les paysages qu'on connaît, les écosystèmes qu'on connaît. Et il y a d'ailleurs des organismes, comme certains animaux du sol, que vous ne connaissez pas, les poropodes, les choses comme ça. Vous ne connaissez pas parce qu'ils sont petits et qu'on ne les voit pas sur Terre. Eux, ils sont passés directement de l'eau dans le sol. Hein. Ils ne sont en fait jamais allés sur Terre. Ils sont passés de l'eau à sous Terre.
Et c'est la grande saga du sol, Marc-André Sellos dans La Terre au Carré.
Midi dans le salon de la duchesse. Il me dit que tu fais de ta jeunesse. Elle est ta sœur qui s'aime encore. J'avais beaucoup de gloire et peu d'amour. Et ma raison est restée dans la cour. Près de tout ça. Qui s'aime encore.
salon de la duchesse Kerenan.
France Inter, la Terre au carré.
Depuis toujours, en Australie comme partout ailleurs, la nature avait prévu des bousiers. Ces bousiers-là étaient spécialisés dans les crottes de kangourous. La crotte de kangourou est modeste et se rencontre de loin en loin, étant donné que le kangourou fait des bonds. Tout va donc bien en Australie jusqu'en 1788. À ce moment, arrivent l'homme et la vache. Les pâturages australiens se couvrent de bouses de vache à la cadence de 450 millions de bouses par jour. Les bousiers australiens, spécialisés dans la crotte marsupiale, sont débordés. Si bien que recouvertes, écrasées, l'herbe meurt. En 1978, les autorités australiennes estiment la surface de pâturage perdue sous la bouse de vache à 1 million d'hectares par an. À partir de 1960, les Australiens favorisent l'entrée de dizaines d'espèces de bousiers immigrés, africains et européens.
Extrait de la chaîne YouTube de Fabrice Percher, l'histoire des bousiers que vous évoquez évidemment, Marc-André Sellos, dans cet ouvrage, et qui ont un rôle fondamental justement pour le sol. Hein.
Ben oui, mais l'histoire des bousiers, c'est un peu comme les dents. Vous savez, on se rend pas compte qu'on a des dents jusqu'à ce qu'on ait une carie, et là ça fait mal, ça marche plus, ça s'effondre, et on se rend compte à quel point c'est nécessaire. Alors les bousiers, ils ont effectivement, ils vont enterrer les crottes et pondre leurs œufs dessus, et leurs larves sur ces crottes enterrées vont en fait manger des microbes qui se développent, voire même d'autres insectes, des larves d'autres insectes qui ont pondu avant que la matière soit enterrée. Une bouse, c'est liquide et c'est taloché sur le sol. Ça va sécher dans un second temps, et entre le fait que c'est compacté et sec, c'est très dur à dégrader. Et les vaches ne remangent pas là où elles ont fait leur bouse.
Donc, or, on peut dire que ça asphyxie le sol ou pas, le fait
d'avoir ça asphyxie le sol, c'est vrai. Effectivement, les choses poussent moins. Et puis surtout, les vaches ne retournent pas là. Ouais. Et une vache, en gros, elle fait 150 mètres, elle couvre 150 mètres carrés de bouse chaque année. Et là-bas, les bouses se décomposaient sous l'effet de la pluie en 3 à 5 ans. Ça prenait un temps énorme. Ouais. Aujourd'hui, on a réintroduit effectivement des bousiers parce qu'ils sont nécessaires et ça se passe mieux. Et on compte qu'en fait, ils rendent un service économique qui vaut
on peut le chiffrer.
2 milliards. Oui, ça a été utilisé. 2 milliards d'euros par an.
Ouais. En Australie,
juste pour des petits bousiers. Et c'est qu'un des composants du sol. Et la bouse, c'est qu'un des problèmes du sol.
Une photo pour finir d'un auditeur en train de nous écouter, Xavier, agriculteur dans les Pyrénées-Orientales. Il nous dit « Je vous écoute et je suis en train en même temps d'épandre de la matière organique sur une parcelle ». Il nous envoie la photo de son tracteur avec une grosse benne derrière. Juste le tracteur qui roule sur le sol, c'est pas trop...
Non, mais s'il y a de la vie dans le sol, il va y avoir des vers, des amibes qui vont se déplacer, des racines et des champignons qui vont pousser et puis mourir et laisser des trous. Non, un sol vivant se décompacte tout seul. Et il est en train, Xavier, de lutter contre l'effet de serre en mettant du carbone dans le sol, de lutter contre l'érosion en mettant du carbone dans le sol, de permettre à ces sols de retenir mieux l'eau parce qu'il y aura plus de matière organique, et aussi, finalement, en nourrissant tous ces microbes, il est en train de fertiliser le sol.
Bravo Xavier, et merci de nous écouter sur votre tracteur. Marc-André Sellos, merci beaucoup. Il y a tout un chapitre, évidemment, à la fin, sur la façon dont nous souillons la qualité des sols et sur la façon dont il faut mieux les gérer. C'est important, parce que le sol, c'est notre patrimoine, et nos gestes de consommateurs ont un rôle sur les sols. C'est tout ce qu'on apprendra, par exemple, dans cette origine du monde, chez Actes Sud. Merci beaucoup à vous d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup.